Décryptage,
Loïc Bussière.
C'est un document paru cette semaine et qui écorne quelque peu l'institution pénitentiaire en France. Une institution qui ne saurait pas, qui ne saurait plus ou trop mal, en tout cas, gérer les détenus radicalisés. Une prise en charge spécifique leur est pourtant réservée depuis 5 ans avec des quartiers dédiés créés dans la foulée des attentats de janvier 2015. Suivi inefficace, prise en charge hors sujet, réponse trop uniforme de cas parfois très différents et surtout pas de réponse sur l'après pour les individus dont on sait qu'ils n'ont pas vocation à rester derrière les barreaux. Voilà le genre de critique mise en avant par le dernier rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté. Alors, quelle solution pour ces détenus radicalisés quand celle posée sur le papier ne suffit plus? C'est la question que l'on pose ce soir dans Décryptage. Avec nos invités David Sker et Adeline Azan. Adeline Azan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'est vous qui signez justement ce rapport très critique sur la gestion des détenus radicalisés en France. Rapport paru mercredi, on y revient dans un instant. Bonsoir David Sker.
Bonsoir.
Vous êtes de votre côté chercheur en sociologie au CNRS à l'Université de Lille. Également, vous vous êtes penché sur cette question des détenus radicalisés sous un angle plus sociologique. Vous êtes le co-auteur avec Gilles Chantraine d'une enquête sur les quartiers d'évaluation de la radicalisation. Adeline Azan, je me tourne vers vous pour ma première question. Ce n'est pas le premier rapport sur le sujet de votre part en qualité de contrôleur général des lieux de privation de liberté?
C'est le troisième rapport en ma qualité de contrôleur général des lieux de privation de liberté, parce que ce problème de la gestion, de la prise en charge plutôt des détenus radicalisés est un problème d'abord éminemment complexe et qui devient très très prégnant pour l'administration pénitentiaire depuis 2014. Donc depuis 2014, l'administration pénitentiaire en est au troisième dispositif de prise en charge des détenus radicalisés. Donc j'ai fait un premier rapport, un deuxième rapport indiquant que la prise en charge de ces détenus n'était pas conforme aux droits fondamentaux et pour un certain nombre de raisons par ailleurs était mal conçu. Un nouveau dispositif est en place depuis début 2018. Le problème principal, c'est que dès qu'il se passe quelque chose de dramatique, finalement, avant même de faire une évaluation des dispositifs mis en place, les pouvoirs publics créent un autre dispositif. Donc c'est ce troisième dispositif que nous avons voulu examiner, et force est de constater que celui-là également ne respecte pas les droits fondamentaux des personnes, même si elles sont condamnées pour des faits graves, fait une évaluation des cas de radicalisation qui n'est pas satisfaisante, notamment parce que justement elle englobe dans une même catégorie spécifique de détenus radicalisés à la fois un jeune homme qui a essayé de partir, qui avait essayé à l'époque de partir en Syrie et n'y est pas arrivé, et un djihadiste totalement ancré dans un processus de radicalisation violente, et leur applique le même régime qui par ailleurs est extrêmement dérogatoire du droit commun, ne serait-ce que par ces mesures de sécurité très renforcées, et que nous jugeons qu'il n'y a pas suffisamment d'individualisation de la peine. Par ailleurs, les critères pour évaluer ces détenus, quand ils ne sont pas condamnés pour des faits de terrorisme et qu'ils sont simplement soupçonnés de radicalisation, eh bien ces critères sont assez opaques et on fait jouer aux intervenants, comme les psychologues, nous insistons beaucoup là-dessus dans le rapport, on fait jouer aux psychologues un rôle qui pose énormément de problèmes éthiques, c'est-à-dire qu'ils rencontrent des personnes en détention qui ne savent pas qu'ils sont rencontrés parce qu'on les soupçonne de radicalisation. Donc ça n'est pas acceptable.
Très bien, Lilazon. On va également donner la parole à David Sker. David Sker, je le disais, vous vous êtes également penché sur cette question des détenus radicalisés. Ce que disait Lilazon à l'instant, c'est que la réponse de la prison à cette question des individus radicalisés, elle n'est pas figée. On voit que les dispositifs évoluent avec le temps. Est-ce que, et on serait tenté de répondre par la négative, est-ce que la prison s'est nourrie des expériences du passé? David Skerr.
Alors, c'est une réponse, c'est une question évidemment complexe, parce que la prison est caractérisée avant tout par son inertie. La sociologie de la prison le montre bien, et je souscris totalement à ce que vient de dire Adeline Hazan, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un contexte, depuis les attentats de 2015, d'urgence politique, je dirais même de panique politique. Une panique politique qui fait qu'on met en place des dispositifs spécifiques de prise en charge des détenus radicalisés. D'ailleurs, une succession de dispositifs, parce qu'au moindre événement, on ferme ces dispositifs pour en ouvrir d'autres, sans même que ces dispositifs soient évalués. Et donc nous, en tant que chercheurs au CNRS, avec mon collègue Gilles Chantraine, on a eu l'occasion d'évaluer en quelque sorte ces dispositifs pendant un an, en allant quotidiennement rencontrer les détenus, rencontrer les professionnels, et vraiment se pencher sur le fonctionnement, en l'occurrence, de ces quartiers d'évaluation de la radicalisation.
Alors, on parle justement de l'évolution de la réponse carcérale à cette question des détenus radicalisés. Il semble que l'un des tournants en la matière, ça soit l'année 2015, avec les attentats, bien évidemment, de Paris, un tournant dans les politiques pénales et les politiques de sécurité, Adeline Hazan ?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en réalité, le phénomène de la radicalisation, il était déjà présent dans les prisons depuis un certain nombre d'années, mais c'était, je dirais, masqué, c'est-à-dire que les surveillants, les responsables d'établissements le faisaient remonter au pouvoir public, et notamment à la chancellerie, mais ça n'était pas véritablement pris en compte, et on peut dire qu'un mouchoir était mis là-dessus, ce qui fait que finalement ça a éclaté, excusez-moi du mot, mais à partir des attentats de 2015, même s'il y avait eu une première démarche un peu antérieure, à la fin de l'année 2014, où le directeur de Fresnes, compte tenu de l'afflux des détenus arrivant de Syrie, justement étant incarcérés pour avoir passé un temps en Syrie, cela avait fait l'expérience des unités dédiées, mais qui avait été une initiative totalement individuel et pas du tout une commande politique, une initiative individuelle du directeur de Fresnes qui était même au départ condamné par la garde des Sceaux qui était Madame Taubira à ce moment-là. Et puis à la suite des attentats de début 2015, le gouvernement a voulu donner un message, a voulu montrer qu'il faisait quelque chose et a décidé de étendre ses unités dédiées. Mais là aussi, sans faire du tout d'évaluation de ce qui s'était passé en 2014.
Alors, la suite, entre guillemets, logique de ces unités dédiées, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui les QER, les quartiers d'évaluation de la radicalisation, qui est une structure dans laquelle les détenus radicalisés passent environ 4 mois. Qu'est-ce qu'ils changent, justement, ces QER, et quels sont, entre guillemets, leurs résultats, David Skerr ?
Alors, les QER, donc quartiers d'évaluation de la radicalisation, ils arrivent en fait finalement assez tard dans cette histoire courte. Donc, Adeline Hazan l'a dit, en 2014, il y a l'unité de prévention du prosélytisme qui est une initiative locale à Fresnes, qui ensuite est généralisée sous la forme d'unité dédiée. On parle ensuite d'unité de prise en charge de la radicalisation et les QER n'arrivent qu'après tout ça. Donc, on décide seulement d'évaluer les détenus alors qu'on a déjà essayé de les prendre en charge. Donc, on se rend compte qu'il y a un problème à ce moment-là et qu'il faut évaluer ces détenus. Alors, qu'est-ce que ça change ? C'est que ces quartiers ne vont pas être des unités de prise en charge, mais uniquement des unités d'évaluation. Donc, pendant une relativement courte période, 4 mois, des cohortes de détenus vont passer pour être observés, passer au crible par toute une série de professionnels, les surveillants, des assistants sociaux, des psychologues, des agents de probation, qui en fait perdent leur rôle de soutien, mais sont uniquement évaluateurs. Et au bout de ces 4 mois, le but est de dresser un profil pour chaque détenu pour les orienter vers une prise en charge qui serait spécifique à chaque détenu. Vous remarquez que j'utilise le conditionnel.
David Skerr, je vais reprendre une de vos expressions justement pour décrire ce que l'on appelle les TIS, pour détenus pour terrorisme islamiste. Vous les décrivez comme, je vous cite, des bombes à retardement prêtes à exploser. Et quand on vous écoute, quand on écoute également ce que dit Adeline Hazan, on a plutôt l'impression que l'institution pénitentiaire tâtonne en la matière. Il y a là une sorte de hors-sujet, est-ce qu'on peut le dire ?
Alors l'expression « bombe à retardement », elle n'est en réalité pas de moi. C'est souvent les professionnels qui vont utiliser cette expression, parce que eux ont conscience, ou en tout cas pensent qu'ils agissent vraiment dans au cœur d'un dispositif de sécurité d'État, et que les personnes qu'ils ont en face d'eux sont des grands terroristes en puissance. Moi, les gens que j'ai rencontrés ont des profils beaucoup plus hétérogènes que ça. Et en fait, comme le disait Adeline avant, on est vraiment sur des profils qui sont très différents d'une personne à l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les détenus aussi vont se présenter comme des bombes à retardement. Et ce pour deux raisons. La première, c'est que c'est qu'ils voient la manière dont ils sont traités. Ils sont dans un dispositif d'ultra sécurisation. Et une des expressions qui va régulièrement revenir, c'est si on me traite comme un chien, ne vous étonnez pas que je morde à un moment donné. Donc c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est l'intégration du stigmate. Si on me traite comme un ennemi, je vais devenir cet ennemi.
Adeline Hazan, pour justement rebondir sur ce que dit David Sker à l'instant, ce que vous dénoncez également, c'est une réponse globale à des cas qui sont qui devraient être traités de manière plus individuelle.
Oui, tout à fait. Mais ce que je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Hein, mais ce que je voulais aussi rajouter, parce qu'on insiste beaucoup dans le rapport là-dessus, ça me semble extrêmement important, c'est que depuis une loi de 2016, toutes les possibilités d'aménagement de peine ont été supprimées, interdites pour les détenus qui sont condamnés pour des affaires de terrorisme. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'une fois qu'ils sont condamnés, ils n'auront droit à aucune réduction de peine, à aucune permission de sortir, à aucune libération conditionnelle. Donc ça rejoint ce qui vient d'être dit sur justement la stigmatisation et l'aspect bombe à retardement, mais ça, parce que justement, ça veut dire qu'on va faire ce qu'on appelle dans le jargon pénitentiaire pour toutes ces personnes des sorties sèches, c'est-à-dire sans aucune préparation à la sortie, sans aucune préparation à la réinsertion, et qu'on sait très bien que plus les détenus sortent en sortie sèche et sans préparation à la sortie, plus ils sont dangereux pour eux-mêmes et pour la société. Donc là, c'est ça le paradoxe, c'est que on parle de traiter, d'évaluer, de prendre en charge des personnes qui sont censées être très dangereuses, et pour certaines, elles le sont évidemment, mais elles vont sortir à un moment donné, ces personnes-là, et on va les laisser sortir sans avoir absolument pas préparé leur sortie, en les ayant par ailleurs soumis à un régime de sécurité totalement exorbitant du droit commun. Donc on risque, évidemment, et pour elles et pour la société, on prend énormément de dangers.
Je rappelle qu'il y a 71 de ces détenus radicalisés qui sont sortis l'an dernier, 43 doivent sortir cette année. David Sker, cette question de l'après qui semble être éludée justement par les solutions mises en place par la prison, c'est un défaut majeur justement des réponses apportées par le système pénitentiaire?
Alors oui, c'est déjà un défaut de la prison pour tous les autres détenus. On sait très bien, effectivement, comme l'a rappelé très justement Adeline Hazan, qu'un détenu qui sort en fond de peine, sans aménagement de peine, est un détenu qui n'est pas préparé à sa réinsertion, et donc il y a beaucoup plus de risques de récidive dans ces cas-là. Dans le cas des détenus radicalisés ou poursuivis ou condamnés pour fait de terrorisme, vu que les aménagements de peine sont impossibles, ben effectivement, on prend là un danger, alors même que certaines recherches, je pense à une recherche de Thomas Renard, montrent que le taux de récidive des détenus qui sont condamnés pour des faits de terrorisme est extrêmement faible. On est à moins de 5% de taux de récidive, ce qui ne veut pas dire que ces récidives ne sont pas graves. Mais effectivement, il y a là une forme de priorisation des risques qui est assez étrange. Et si on s'appuyait un petit peu sur les recherches, c'est vrai qu'il faudrait penser à la sortie de ces détenus.
Ça s'impose question justement, Adeline Hazan, je me retourne vers vous, de cette atteinte aux droits fondamentaux que vous dénoncez dans votre rapport.
Bien sûr, parce que ces personnes, d'abord, pour une grande partie d'entre elles ne sont pas encore condamnées, donc elles sont présumées être innocentes, et on leur applique quand même un régime de sécurité plus, qui est tout à fait anormal, avec absence de voie de recours, etc., même si un décret de fin 2019 a modifié cela, mais jusqu'alors, ils ne pouvaient même pas faire des recours contre le fait qu'ils vont être orientés en quartier de prise en charge de la radicalisation. Donc ça, c'est la première des choses. Et pour l'ensemble de
de tous ces détenus. Ils n'ont par exemple pas droit de fait, ils n'ont pas accès au travail, ils n'ont pas accès à la formation professionnelle, ils n'ont pas accès aux activités. Et globalement, c'est un régime qui est très très proche de l'isolement sans finalement apporter les garanties qui sont légalement attribuées à ce régime de l'isolement. Par exemple, un détenu mis à l'isolement, ça ne peut pas durer plus de 3 mois et ensuite, pour être renouvelé, ça obéit à des conditions très strictes, tandis que les quartiers de prise en charge de la radicalisation, ils y sont pour au moins 6 mois et ça peut être renouvelé 3 fois, c'est-à-dire qu'ils peuvent y rester 18 mois et une fois de plus dans des conditions qui sont exorbitantes du droit commun compte tenu du fait que leurs droits fondamentaux ne sont pas respectés. Déjà, ils ne le sont pas pour l'ensemble des détenus, hein, ça nous on passe notre temps à le dire, mais encore moins pour ces détenus. Or, moi, je maintiens que même s'ils sont soupçonnés ou s'ils ont commis des actes très graves, personne n'est là pour minimiser ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils sont susceptibles d'avoir fait, il y a un socle de droits fondamentaux qui ne devrait pas leur être retiré.
Alors, on touche du doigt justement cette problématique du regroupement de ces détenus radicalisés dans des quartiers spécifiques. On rappelle que la ligne directrice justement de l'administration pénitentiaire, c'est qu'il faut séparer les détenus de droit commun avec ceux qui sont incarcérés pour des faits de radicalisation, qu'elles soient avérées ou supposées. Dans les faits, c'est une option qui découle directement, David Sker, et là je me tourne vers vous, de la surpopulation carcérale.
Et évidemment, donc c'est une question fondamentale, c'est une question qui s'est posée au pouvoir public dès les attentats. C'est que faire de ces détenus-là ? Faut-il les regrouper ou faut-il les disperser ? Mais on ne peut pas poser cette question-là en faisant abstraction de la condition pénitentiaire plus globale. On est dans des prisons qui débordent avec une surpopulation massive. Et lorsqu'on décide de faire, par exemple, des unités dédiées et de rassembler dans des quartiers non surpeuplés des détenus radicalisés, on renforce la surpopulation dans d'autres quartiers. Donc ces questions-là, elles ne sont pas hors sol. Et en fait, la prise en charge des détenus radicalisés, c'est un petit peu une caricature de la prison. Elle met en lumière à la fois les violations des droits fondamentaux en prison, mais surtout l'oscillation depuis une vingtaine d'années entre la valorisation des droits d'un détenu d'un côté et la mise en place de dispositifs spécifiques au nom de la gestion de la dangerosité, ici de lutte contre le terrorisme, qui risque toujours de renforcer l'arbitraire pénitentiaire en matière d'évaluation, d'affectation ou de traitement des détenus.
On a le sentiment, quand on vous écoute l'un et l'autre, finalement d'une sorte de chantier permanent, en fait, d'une recherche constante de réponse avec un cap qui va changer en fonction des événements, une sorte de gestion à réaction de la question des détenus radicalisés. David Sker, est-ce que c'est le constat que vous faites ?
Alors c'est évidemment le constat qu'on a fait, c'est un constat très classique en sociologie de la prison, mais c'est de dire que la prison, même si elle est caractérisée par son inertie, elle change, mais elle change toujours en réaction aux événements, lorsque il y a des histoires, des drames en matière de faits de mœurs, ce sont les détenus incarcérés pour faits de mœurs qui vont voir leurs mesures modifié. Maintenant, c'est le tour des détenus radicalisés. Mais on peut espérer, maintenant que les attentats sont derrière nous et je touche du bois, que l'administration pénitentiaire réfléchisse plus sereinement à la mise en place de dispositifs spécifiques et de prise en charge spécifique pour ces détenus. C'est en tout cas ce qu'elle annonce. J'attends de voir.
En un mot, Adeline Hazan, puisque le temps presse, est-ce que c'est également ce que vous appelez de vos voeux, justement, ce constat que fait David Sker ?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce que ce qu'il faut absolument faire, c'est se donner le temps et les moyens de faire une évaluation. Et on sait bien, en matière de prise en charge de la radicalisation, comme dans d'autres matières, que ça n'est jamais bon de voter une loi ou de prendre un nouveau dispositif uniquement en réaction à ce qui vient de se passer. Et finalement, on est obligé de constater que, alors que l'objectif initial de la chancellerie, c'était de prendre en charge cette radicalisation, c'est-à-dire d'éviter un passage à l'acte violent, ben ça devient finalement, sûrement aussi à cause de la surpopulation, un outil de gestion de la détention, c'est-à-dire qu'on crée...
On n'en dira pas davantage, Adeline Azan, puisque l'heure tourne. Merci d'avoir répondu à l'invitation d'RFI, Adeline Azan, contrôleur général des lieux de privation de liberté. David Sker, je rappelle que vous êtes chercheur en sociologie au CNRS à l'Université de Lille.